وحال يلي نسيتي لو وإذا طولت العماضر وحكمت الأقدار بلك شنهار يتحوسي علينا نزل مازال عشقك في البال نسك محال يلي نسيتي لو وإذا طولت العماضر لك شمهار بتحوسي علينا
La Rediff. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Et oui, grand témoin aujourd'hui, Sarah Blinman, Mazel Podcast. On parlait des camps. C'est un morceau très peu connu. On a en Algérie les enfumades. On a étouffé et tué beaucoup d'habitants, et on a aussi bien sûr la répression avec les différentes insurrections, que ce soit de l'émir Abdelkader, de Fadman Soumer ou après de la révolution algérienne, et on a déplacé énormément de population en Algérie, et ça c'est pas aussi connu que par exemple la bataille d'Alger, quoi.
Oui, effectivement, il y a énormément de passages en fait de l'indépendance, de la lutte pour l'indépendance du peuple algérien qui sont tus ou peu connus, vraiment peu connus de l'histoire, que ce soit en France ou en Algérie d'ailleurs. Et c'est vrai que cette question des camps, elle est très structurante parce qu'elle a profondément déstructurer la société algérienne, la société paysanne notamment. Et oui, plus du tiers de la population a été déplacée pour empêcher l'organisation de l'indépendance, justement. Et ils étaient dans des conditions absolument scandaleuses de vie. Énormément en sont morts. J'ai pas les chiffres en tête pour vous les donner, malheureusement. Mais c'était vraiment vraiment tragique. Et Michel Rocard, à l'époque stagiaire ENA, s'était rendu là-bas. Il avait fait un rapport sur la situation terrible qui était, et ce rapport a fuité, et c'est comme ça que ça a été connu dans un premier temps, mais voilà, c'était quelque chose de qui servait la cause coloniale, donc maintenir le peuple algérien sous sa domination, et donc il fallait
oui, ça faisait partie de ce qu'on appelle la déshumanisation du peuple algérien. En fait, on a tout eu. On a eu du pogrom, on a eu des génocides, on a eu de tout, puisque les Algériens étaient dépossédés, y compris de leur patronyme. Mmh. Il n'y avait plus de nom. Donc l'état civil en 1886 a été fait par l'état colonial. Donc vous aimiez le chou-fleur, on vous appelait chou-fleur. Il y avait des asticots dans votre jardin, on vous donnait le nom d'asticots. Ça a été ça. On a dépersonnalisé les tribus, on a éclaté les tribus, on a donné d'autres noms. Cette partie un petit peu de la colonisation est très peu connue, et donc on le retrouve aussi sur Mazal Podcast, et il y a aussi quelque chose qu'on retrouve aussi sur Mazal Podcast, par exemple c'est 1945,
effectivement,
les émeutes de Khayalata et de Guelma et de Sétif. Mmh. En fait, ça allait de Guelma jusqu'à Béjaïa, hein. C'était toute cette région avec Khayalata qui était un point d'orgue, et Sétif et Guelma, et ça, on retrouve ça aussi sur Mazal Podcast.
Oui, pour l'instant j'ai pas encore eu l'occasion de faire des épisodes qui détaillent vraiment, mais c'est prévu, et également d'organiser des événements culturels pareil autour de ce sujet, autour de productions qui ont été réalisées, documentaires et fictions sur cette période très peu connue, et qui est célébrée tous les ans en France le 8 mai 1945 comme une victoire contre la barbarie nazie, alors qu'à ce moment-là s'ouvrait une période de barbarie coloniale absolument épouvantable et choquante et inconnue en France, encore une fois, et qui a marqué pour beaucoup le vrai début en fait de la guerre d'indépendance, parce que c'était une tentative pacifique, politique. Ça a commencé par cette manifestation de victoire contre les alliés, avec le drapeau algérien qui a été brandi, le jeune scout sur qui un policier a tiré, et ensuite les émeutes réprimées très sauvagement par des milices, par la police, par l'armée, couvert par le préfet de l'époque à Cary pendant des mois. Cet épisode est absolument inconnu de l'histoire de France, et c'est, en tant que franco-algérienne, encore une fois porteuse de cette histoire, c'est très malaisant, pour euphémiser, de célébrer ce jour-là, d'entendre ce jour-là célébré comme la victoire contre la barbarie du nazisme, et pas de mention de ce que la France faisait en même temps en Algérie.
On est dans la schizophrénie historique, c'est-à-dire que on a un grand-père qui est mort en 45 pour libérer la France, et on a un père qui est mort à Sétif pour dénoncer le colonialisme français. Et on est complètement dans la schizophrénie historique, où l'Algérie est complètement consubstantielle de l'histoire de France. L'histoire d'Algérie, c'est une partie de l'histoire de France, et l'histoire de France, c'est une partie de l'histoire d'Algérie. C'est complètement intriqué, imbriqué, et vous l'avez dit très justement, parce que on avait Messali Hadj, on avait le PPA, on avait le MTLD, le PPA. Ensuite, on a eu Farhat Abbas qui a monté un peu ses initiatives. Mais 45 a été, par exemple, le déclic pour créer l'organisation spéciale. L'Arbi Ben Hedi était le président de l'organisation spéciale, et c'était le déclic vraiment de la révolution algérienne, où on a dit voilà, c'est basta. Et là, la jonction s'est faite avec le mouvement ouvrier algérien dans l'immigration, le mouvement prolétaire et paysan en Algérie, et le glaive s'est levé. On s'est dit, faut couper la tête du colonialiste, et d'où le 1er novembre 54, une petite dizaine d'années après. Et donc on va retrouver tout ça, bien sûr, sur Mazal Podcast. Donc une immersion totale. Mmh. C'est-à-dire que vous souhaitez que ce soit les jeunes lycéens, les jeunes collégiens qui écoutent Mazal Podcast. Vous avez envie d'aller dans les livres d'histoire, vous avez envie de donner des coups de boutoir. Vous voulez en faire quoi de Mazal Podcast?
Oui, moi j'adorerais, oui. Comme on disait tout à l'heure, l'idée c'est d'en faire. Pour l'instant, j'ai créé un support avec mes moyens, donc totalement indépendant, totalement bénévole pour l'instant, sans sponsor, etc. D'ailleurs, si des personnes veulent sponsoriser.
Ouais, rappelons, c'est une démarche complètement autonome, délibérée, bénévole, et que vous faites ça parce que c'est aussi votre propre histoire. C'est un peu autobiographique, quoi, quelque part.
Ouais, c'est même pas par autobiographie, c'est vraiment par intérêt public, j'ai l'impression, parce que en fait, bah ça y est, maintenant on est.
En vous rendant service à vous, vous rendez service à tout le monde.
Oui, voilà, en fait, j'ai acquis ces savoirs, et maintenant j'ai envie de les transmettre parce que c'en est assez, en fait, j'ai l'impression de. Ça fait des années que ce climat perdure, et en tant que petite fille de grands-parents arrivée dans les bidonvilles de Nanterre, qui a accédé à un meilleur statut social, économique, etc., je me dis que cette situation et cette vision encore, ces représentations, enfin, c'est d'un autre temps et que oui, il est temps de reprendre le contrôle d'une certaine manière sur ses narrations, sur son histoire, de la connaître, parce que c'est pas possible de me dire qu'on va évoluer dans une société avec où tout ça nous est ôté, en fait, toutes ces mémoires nous sont ôtées, et comment on peut se construire dans une société qui a encore du mal à gérer la question raciale, il faut le dire, sans avoir ses bases et connaître son histoire qui en plus est glorieuse à plein d'égards, notamment cette résistance dont on parle, c'était un sacrifice immense de la part du peuple algérien. Donc il faut aussi reconnaître voilà sa part d'histoire glorieuse.
Du patrimoine, de la culture, de l'histoire, de la musique aussi, parce qu'il y a pas mal de choses autour de la musique avec Naïma Yahi qu'on salue ici à Beurre FM et qu'on aime beaucoup. Donc en fait très éclectique. On est vraiment allez vous immerger dans ce podcast qui va vraiment vous étonner. Et on va terminer par une chanson de Idir, Idir auquel on a rendu hommage hier, en inaugurant un square à Paris, le square Idir. Et on va écouter une chanson, Taglaoula, La Révolution. Et il faut qu'on rappelle aussi que les chansons, Fodil qui est à la technique, nous regarde, que ce soit Cheikh Al-Hasnaoui, Ahsissen, Slimane Azem, Shrifa, Idir, en fait les chansons de l'époque étaient des podcasts avant l'heure. C'est-à-dire qu'ils racontaient les choses. Souvent, c'était des textes tirés du quotidien. Et les chansons de notre patrimoine, c'était déjà des podcasts. Et en fait, vous faites que relayer et prolonger cette culture et cette façon de faire. Merci mille fois d'être venu, Sarah Benliman. On se retrouvera, je pense, dans beaucoup d'événements et probablement en partenariat. Donc, je vous propose qu'on se sépare avec Idir. Qui nous a fait un hymne international qui s'appelle Vava Inouva, c'est l'hymne international. On va s'écouter Taglaoula, La Révolution. À bientôt, Sarah.
À bientôt, merci encore pour l'invitation.
17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, la rediff. La rediff. La rediff. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour à tous, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux, quel plaisir, quel plaisir. Bon allez, on va démarrer, vous savez quoi, au sommaire de cette émission, tout d'abord, vous savez que ça ne change pas, on commente, on décrypte, on analyse l'actualité. Alors au sommaire de cette émission, nous allons démarrer avec les débatteurs influenceurs qui sont prêts à dégainer. Dégainer autour des sujets qui, aujourd'hui, on doit le dire, ont secoué la planète. Non, je rigole, clochette. Ont secoué notre France, quoi. Alors, vous savez quoi ? On ira s'intéresser à LFI. Mathilde Panot qui est convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Et puis Mélenchon qui crie, vous savez quoi ? À notre démocratie qui est touchée de plein fouet. Nous en parlerons, nous reviendrons sur cet événement aujourd'hui. Mélenchon, aussi, vous savez qu'elle était en pleine conférence à Sciences Po Paris. Eh bien, on lui a dit, à la sortie de cette conférence, il a été chahuté par des gens, des jeunes d'extrême droite. Et puis surtout, il a été pris à partie hein, en réclamant qu'il puisse se dégager, évidemment, de la sphère politique. Nous en parlerons. Mélenchon discrédité, grand point d'interrogation. Indéfendable, grand point d'interrogation. Vous savez pourquoi je dis ça ? Après sa révérence à Heinzmann. On vous dira qui est Heinzmann. C'est terrible, c'est vrai. N'oublions pas l'époque nazisme, clochette. Le Premier ministre est en train de tanguer. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. C'est ça, exactement. Vous savez pourquoi je dis ça ? C'est le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il s'inquiète, figurez-vous, d'un possible mandat d'arrêt. Et il prend ça très au sérieux. Il se dit, oui, il y a cette forte probabilité et possibilité que la Cour pénale internationale émette, figurez-vous, un mandat d'arrêt à son encontre pour crime de guerre contre la bande de Gaza. Clochette. Eh oui. Était timide la clochette aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a ? Fatiguée ? Ah, ben voilà ! Une vraie bonne clochette, bien de chez nous, hein, on est d'accord. Ensuite, vous, au 01-53-48-3000, vous intervenez, comme hier. Vous étiez très nombreux, hein. Je peux pas peu prendre tout le monde, mais là, aujourd'hui, promis. Voilà, toute cette vague, là, 01-53-48-3000, Solal, il vous accueille avec grand plaisir et il vous prend en direct. Venez débattre avec les débatteurs. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face, Augustin Vargue. Bonjour, Augustin, qui boit son café.
Bonjour, de l'eau.
De l'eau.
De l'eau.
Ah, de l'eau.
De l'eau.
Vous n'êtes pas café aujourd'hui ?
Non, je vais pas dormir ce soir.
Ah, vous êtes comme ça, vous ?
Ouais, et très diurétique.
Vous savez, il y a certains qui prennent le café, ils dorment, tranquille.
Ouais, il y en a.
Et d'autres qui prennent le café, comme moi, vous êtes comme moi.
Exactement.
Quand je bois le café à partir après 18h, tu peux t'assurer d'une chose, le sommeil, c'est mort.
Ouais, c'est sûr.
C'est vrai, ouais, c'est comme vous.
Oui, clairement.
Ça va l'entrepreneuriat ?
Ça va.
C'est timide en ce moment.
Dur, hein,
c'est ce que j'entends. Moi, ce matin, j'ai échangé avec un camarade, un copain, qui me disait que c'était compliqué. Hein. Beaucoup parlent de liquidation. C'est quoi ? Ça fait flipper ces histoires-là.
On a été. 2023 a été le championnat. L'année malheureuse millésime la plus. Où il y a le plus de liquidations judiciaires.
Ouais.
Et on est sur un. Sur 2024, sur la même tendance, voire pire.
C'est la première fois que j'entends parler autant chez les entrepreneurs, dans la bouche des entrepreneurs, de liquidation.
Ah oui, bien sûr.
Ça m'a fait froid dans le dos, moi.
On pourra en discuter un soir.
Ouais,
émission.
Bon, on est là, on n'est pas là pour tomber, mais en même temps,
non,
c'est la réalité.
Mais
bon.
C'est difficile. C'est difficile parce
c'est
que il y a les PGE à rembourser depuis quelques années, donc il y a moins de trésorerie dans les boîtes. Enfin, on pourra en discuter. C'est
l'État déjà manque d'argent.
L'État, voilà.
Ouais, déjà manque d'argent. Bon, allez, compliqué. À vos côtés, vous savez quoi ? C'est l'élu de la ville de Villejuif. Il se déshabille, il se rhabille. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il se croit dans sa chambre.
Bonsoir aux auditeurs.
Guillaume de Swinog. Le mec, il se déshabille, il se rhabille en direct. Il se rhabille, il se redéshabille. Je ne sais pas ce qu'il fait. Tout ça pour nous mettre planète en danger. Son t-shirt.
Ça y est,
le mec, attendez, je vais le décrire. Qu'est-ce qui est marqué ? Planète en danger. C'est marqué quoi aujourd'hui ? Osons la paix.
Ouais. Un petit.
Il est fabriqué où le t-shirt
cru,
hein.
Il se trouve à la boutique du Mouvement de la Paix. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver le visuel.
dans cette association, association pacifiste qui existe depuis 1948, je le rappelle, ouais. en soutien à l'ONU et à son mandat pour nous les peuples.
Ouais. Bah, vous avez bien raison. C'est un humaniste, hein. Il est pacifiste.
Et à ce sujet, j'ai une petite annonce à faire, hein, dis-le, si on a le temps.
Normalement, on démarre l'émission, mais si c'est une annonce qui va dans l'intérêt général, je veux bien.
Bah oui, c'est une annonce qui va dans l'intérêt général, tout à fait. Les auditeurs me connaissent un peu et ils savent.
Mais justement, depuis... c'est pas, ils s'inquiètent justement, parce qu'ils vous connaissent.
Mais ils savent
clochette.
Ils savent que depuis 6 mois que je viens régulièrement dans l'émission, j'essaye de prendre le point de vue le plus constructif possible sur...
Allez-y, cher ami, allez-y. Bon, vous allez gratter beaucoup de minutes, là.
Je suis parti en congé et prendre un peu de repos, un peu de distance, et ça m'a amené à réfléchir, puisque juste avant de partir en congé, je le rappelle, il y avait... l'attaque de l'Iran sur Israël, attaque qui elle-même faisait suite à une opération sur le consulat iranien au Liban et qui avait été justement qualifiée de provocation. Il y a des déplacements en mer de Chine avec l'armée américaine qui est sur un état d'alerte presque maximum. On a une campagne de printemps en Ukraine qui s'annonce catastrophique. Bref, il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter sur les gros mouvements de fond, parce que on parle des mauvaises nouvelles sur les questions des entreprises qui occupent beaucoup du débat politique en France, beaucoup de la campagne européenne, mais ces mouvements de fond là, il faut s'en préoccuper. Et moi, pour m'en préoccuper, j'ai toujours tendance à me tourner vers le secrétaire général de l'ONU. Et le secrétaire général de l'ONU, au milieu de ces vacances dans le Cantal où on a l'esprit un peu ouvert.
Je crois que le Cantal, ça vous a fait du bien, dites donc.
Le Cantal, c'est formidable. Le Cantal, c'est génial.
Vous voyez,
contre, on nous avait pas dit qu'il faisait un podcast. Hein.
Ouais. Allez-y, lâchez-vous ce que vous voulez dire.
Il annonce que dans le cadre du sommet de l'avenir, il lance 2 campagnes, une en direction des jeunes pour que les jeunes prennent la voix, et une autre pour qu'il y ait 1 million d'actions qui relancent la confiance dans la communauté internationale. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il a des ambitions énormes pour ce sommet de l'avenir, avec une réforme de l'institution et surtout une réforme de son financement pour faire que la coopération internationale elle prenne vraiment la mesure des besoins et elle fasse sortir de la crise par le haut. Et moi, à la suite de ça, quand je rentre, c'est la journée de la créativité, et comme je suis un artiste, un humaniste, je prends ma petite plume et j'écris une pétition.
Je peux vous faire
et
une
cette
demande.
Pétition, elle est sur change.org, elle s'appelle Tous J'ai ensemble, raison. Refusons la guerre, donnons de la force au sommet de l'avenir organisé par l'ONU.
Guillaume de Souy, où es-tu?
Vous pouvez la trouver donc sur Change.
Je compte
beaucoup sur les auditeurs et les auditrices de Beurre FM pour qu'ils fassent quelque chose. On a besoin d'être tous ensemble.
Vous avez raison, allez-y sur change.org. Guillaume de Souy, le pacifiste, on l'arrête jamais.
Il a réussi à placer tout son produit.
Il peut finir en conseil régional.
Il peut finir président de la République.
Président de la
République. Je suis patate, mais tout droit.
Monsieur le conseil régional.
C'est moi.
Porte-parole, co-porte-parole
de l'écologie au centre. Oui. Le premier parti écologiste de France.
Ça va, monsieur Jean-Marc
Govan-Thomy, il va très bien. On mène une super campagne, une campagne de terrain, qui est pas
en
facile.
En ce moment, on parle que des...
de Gozan, mais justement, elle voulait dénoncer les dangers de l'IA, et je crois que c'est réussi. Et puis surtout,
c'est réussi.
Dénoncer que l'ARCOM nous donne pas le temps de parole nécessaire pour qu'on puisse être reconnu et avoir des eurodéputés. Ils ont choisi les idiots utiles d'Europe Écologie Les Verts pour dénigrer le message politique.
Vous avez fait comme Guillaume, vous savez, on vous déroule les
Non, c'est arrêté, mais en vérité, j'ai hésité à venir aujourd'hui, Adil.
Ah, pourquoi?
Ah, parce que je suis pas devant n'importe qui, je suis devant une sommité qui a refusé de faire Koh-Lanta. Oui. Pour faire son métier
de
journée.
Ah oui, vous avez lu l'article?
Bah oui, je me renseigne un petit peu, moi.
C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. C'est vrai. Bon, on va tout dire, parce que vous avez
raison.
Non, mais faites référence à quoi?
À l'article dans Entrevue, qui dit.
Entrevue.fr, allez-y.
Entrevue.fr, que Adil Farkan. Non, mais c'est vrai. Non, mais attendez, je suis pas là pour vous cirer les pompes. Je suis là pour dire que une proposition de faire Koh-Lanta avec tous les éléments financiers qui vont avec, vous avez continué votre vocation en disant moi je préfère être un journaliste, même si
alors que j'étais
quand on est plus jeune.
Comment ça s'est passé? Vous voulez que je vous raconte? J'ai raconté dans les détails. C'est quoi? Non, d'abord, c'est vrai pour tous celles et ceux, parce que maintenant Philippe Lagiboriaki a tout balancé. Je fais l'objet d'un portrait interview dans Entrevue, effectivement, de ce matin. Donc voilà. Et depuis ce matin, je reçois des messages. C'est vrai, hein, par nombre. Je remercie tous celles et ceux qui m'ont écrit des messages. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Merci infiniment. C'est dans Entrevue.fr. Alors c'est vrai que quand j'étais à TF1, j'étais à Téléfoot. Ah, journaliste chroniqueur. Et à Téléfoot, c'est quoi? Ça se passait bien. Tout se passait très bien. Moi, j'ai passé 5 ans et demi à TF1. Et alors, Étienne Mougeot me convoque un beau matin, quelque chose vers 10h30, 11h, quelque chose comme ça, dans un bureau au sommet de la tour TF1. Moi, j'étais impressionné, j'étais gamin, j'avais 25, 26 ans. Et alors, j'arrive dans le bureau, il me convoque, il me dit, il me tutoie, je le vois, il me dit, oui, alors, comment ça va, jeune homme? Ça se passe bien d'ailleurs à Téléfoot? Je dis, ouais, très bien, ça se passe vraiment, je ne peux que être réjoui. Je me souviens plus des, en substance, ce que j'avais dit à l'époque. Et il me dit, j'ai quelque chose pour vous. En ce moment, je suis en train d'essayer d'organiser un jeu d'aventure qui va voir le jour très prochainement sur TF1. Je vous jure, Philippe Lagiboriaki, c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais assis. Moi, d'abord, je kiffais Étienne Mougeot, parce que c'est lui qui m'a recruté. C'est vrai, pourquoi tu rigoles?
C'est un grand monsieur des médias.
Grand monsieur des médias.
C'est vrai.
Grand monsieur, c'est un peu mon mentor.
Tout ça.
Et j'arrive, j'étais très impressionné, et il me dit, je suis en train de caster un certain nombre de journalistes, et je voudrais vraiment que vous, parce que je sais pas, je vous vois bien, il m'a dit un truc comme ça, je vous vois bien, jeu d'aventure, etc. Et alors je le regarde très perplexe et je lui dis, je le vois et je lui dis, monsieur Mougeot, j'ai pas fait tout ça pour être, pour finir animateur. Je vous jure, non mais j'étais trop naïf, mec, il m'a regardé, il a souri, je vous jure qu'il a souri. Il me fait, vous avez pas compris, Adil? Je dis, peut-être j'ai pas compris, j'en sais rien, mais vous me proposez d'être animateur, moi je veux être journaliste, j'ai fait tout ça pour être journaliste, vous voyez ce que je veux dire?
Il proposait pas d'aller manger des asticots, il proposait de la place de brouillard.
Il avait pas dit Koh-Lanta à l'époque, ouais, le nom n'était pas sorti. Et moi, quand j'apprends quelques mois après que c'est Koh-Lanta, je croise Étienne Mougeot dans les couloirs et je dis, mais monsieur Mougeot, je ne sais, si j'avais su, je l'avais dit comme ça, si j'avais su. Et il me dit, vous avez pas compris. C'est passé à peut-être moi. Voilà, exactement.
Et c'est grâce à ça que t'es là aujourd'hui.
Donc
on remercie Étienne Mougeot et toi d'avoir refusé les
potes. C'est le destin de la vie. C'est le Mektoub, c'est le destin de la vie. Non, mais j'ai kiffé ça. Ouais. C'était très drôle, je vous jure, c'était drôle.
Belle anecdote.
Ouais, merci, merci, mon cher ami.
Ouais, je vous en prie.
Allez, on va parler de choses sérieuses maintenant. Vous savez quoi? Vous êtes prêts? Parce qu'il y a Rachida Kaout qu'on salue d'ailleurs, qui est coincé dans les bouchons. Rachida, vous nous manquez, Rachida.
Oui, Rachida.
Qui représente Renaissance, qui est une élue aussi. Hein.
Oui, d'Ivry-sur-Seine, une femme formidable.
Ivry-sur-Seine, ouais, une femme qui, de poigne, qui lâche pas l'affaire, elle aussi. Hein. Si vous nous écoutez, on vous embrasse, Rachida. Elle est fille Mathilde Panot, convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Dis donc, ça ne sent pas bon depuis Rima Hassan. Maintenant, c'est Mathilde Panot. Ensuite, il y a toute une série, évidemment, pour elle et filles, de convocation. Que se passe-t-il, Augustin Varg? Que doit-on comprendre? Moi, et on parlera de, évidemment, vous savez quoi, de Mélenchon, qui crie haut et fort, notre démocratie va mal.
Je ne suis pas très éléphiste, mais ceci dit, je trouve que le débat se passe dans un commissariat, l'apologie, c'est-à-dire défendre le terrorisme et tout ça. Je trouve que ça n'a pas son lieu, en fait.
C'est pas sérieux.
Franchement, c'est pas bien. Et y compris, d'ailleurs, je dirais, sur une autre échelle, qu'on interdise Zemmour et Victor Orban de tenir une réunion aussi. Je ne mettrai pas sur le même plan, mais je pense que ça fait partie d'une espèce de fond de mentalité, de tension.
Alors, on va en parler. Non, justement, on est là pour en parler. parler, parce que là, il y a un vrai malaise, je vous le dis clairement.
Donc, dans ces cas-là, ils peuvent mettre aussi Daniel Obono aussi.
Il y a un vrai malaise.
On peut mettre beaucoup de gens de LFI aussi, pour ça, au nom de l'apologie, au nom de l'apologie, quoi.
Oui, sauf que Zemmour et Orban, ils font vraiment l'apologie d'une idéologie d'exclusion contraire aux droits humains, et que ils ont tous les deux été multi-condamnés. Madame Panot, je suis désolé, mais ça va mener sur rien. Parce que il n'y a rien.
Mais alors pourquoi
c'est vide.
Alors pourquoi
et c'est.
Mais alors pourquoi
entre
ça
guillemets. Ça va être des flics qui vont définir ce que c'est. Enfin, à quel grade c'est l'apologie, à quelle sanction. Enfin, ça va être.
Mais attendez, Madik Panou, vous avez. Non, mais attendez. Là, il faut prendre le truc sérieusement. C'est quand même la patronne
sûr.
Des députés.
Mais bien sûr.
Bien sûr. On n'est pas
sûr.
En train de.
Rima Hassan. Et,
c'est la chef.
De Daniel Obono aussi dans ces cas-là.
Rima Hassan. Je pense. Enfin, c'est de la même manière. Je suis d'accord avec vous. Je vous ai coupé. Pardonnez-moi, Guillaume. Allez-y.
Non, mais dans ce cadre, on assiste à des choses qui vont tout de suite faire glisser vers l'instrumentalisation de la justice, le soupçon sur la police. Ouais. Que fait le ministre de l'Intérieur ? Je veux dire, on peut pas assister à un débat comme celui-là. On peut pas avoir un ministre qui se tait.
Il peut pas intervenir en plus sur une procédure judiciaire non plus, le ministre de l'Intérieur.
Non, mais, il peut pas intervenir sur
qui va instrumentaliser.
C'est ce qu'elle dit.
Réversiblement pour
lui reprocher
la même chose.
Hein. J'ai reçu ce jour une convocation pour être entendu dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Ne nous tairons pas. Aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de protester contre le génocide au cours. Ensuite, je perds le fil. Elle fait référence à Gaza. En cours contre le peuple palestinien. J'appelle tout à chacun à prendre conscience de la mesure des atteintes alarmantes contre la liberté d'opinion et contre la démocratie. C'est ce que dit aussi également Mélenchon. Vous savez quoi ? Je vais ouvrir l'antenne. J'ai besoin d'entendre nos auditeurs. 01 53 48 3000 Solal. Hein ? On va les accueillir. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Vraiment, je veux vous entendre.
Moi, Adil, je veux quand même conclure en disant que là, je décroche de la France insoumise, parce que la France insoumise, elle a quand même franchement tendance à rentrer dans le jeu de la surenchère, et elle devrait en appeler aux grands principes et se tenir droite et dire qu'ils font les choses sans jeter le soupçon. Le tweet de Mathilde Panot, comme bien souvent, il y a le soupçon qui apparaît, et c'est ça qui abîme le débat, et c'est là où le ministre devrait intervenir, ne serait-ce que pour soutenir.
Vous savez quoi, on revient tout de suite parce qu'on doit marquer une pause, on revient tout de suite en parler. 01 53 48 3000, chers amis, venez participer et commenter cette actualité. Voilà, trouvez-vous cela normal ? Est-ce que vous pensez, un peu comme les gens, les personnalités de LFI, qu'effectivement cette convocation pour une enquête pour apologie du terrorisme est évidemment est justifiée ? Ou intimidation, hein, de quelque nature que ce soit. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, la redille. La redille, la redille, la redille. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Ah, Augustin Varga avec Guillaume Dessouille, avec Philippe Ndiboyaki, avec Jouba Taleb.
Je vous ai rejoint.
Ça va ?
Je suis très content d'être avec toi, Adil.
Vous remplacez évidemment de pied notre ami Rachida.
Voilà, je préfère quand même Rachida quand même.
Je ne suis pas du tout Renaissance. Hein. Voilà. Ni Macron, ni Renaissance compatible.
Vous êtes en quelque sorte d'extrême gauche.
Non, mais tout est question du point de vue. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une extrême droitisation du paysage politique. Donc la gauche est totalement à l'extrême gauche. Donc on est tous à l'extrême gauche de quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, on est.
Ramenez-moi, Bilal.
Non, mais c'est vrai, les gars.
Attendez.
Attendez.
Je veux vous donner la parole. C'est pour ça que je vous ai fait venir sur ce plateau. Parce que vous êtes amateur de foot, et notamment chez Mylène Nedman.
Ouais, c'est vrai.
Attendez, je vais justifier son passage. Non, mais viens, Bilal. Bonjour. Je vais ouvrir le micro. C'est inédit ce qui se passe dans ce plateau. C'est complètement. Je vais m'excuser auprès de nos auditeurs.
Bilou. En train de préparer l'émission.
Bilou.
Je sais pas, il a un peu
de. Intrusion dans le plateau.
Ouais, voilà, c'est ça. Je vois ce qui se passe là.
C'est Adil qui m'a invité.
C'est moi qui l'ai invité, Bilal.
Ok.
Vous savez pourquoi ? Parce que je vais vous dire, Bilal, pourquoi. Attendez, Bilal, c'est mon pote. Bilal, c'est.
C'est la famille Beurre FM.
C'est la famille. Bilal, je l'ai invité. Tu sais pourquoi je l'ai invité ? Parce que tout le temps, il me harcèle. celle de SMS.
Ah,
mais il adore la politique. Il commente l'actualité. Je suis en direct. Et il commente en même temps, il me dit non, lui, celui non. qui dit ça, je suis pas d'accord.
Non, mais
c'est
pas
ça, c'est ça. Non, c'est
mais vrai, c'est vrai.
Non. Je te balance.
Il y a lui, il y a Moulin aussi.
Oui,
aussi.
Et il me dit ça. Alors maintenant que je te vois dans les couloirs, à l'autorisation de Bilal, je t'invite sur ce plateau, comme ça tu vas pouvoir, tu sais quoi, dire ce que tu penses.
Non, mais c'est voilà. bien d'avoir.
Non, mais attends,
aussi
non, je te donne la parole. Je te donne la parole ici, c'est pas Bilal, hein, c'est pas Bilal. Bilal, je t'embrasse. Attends, frérot, à tout à l'heure, 20h, 21h. Bilou, attention Bilou, hein. Moi je kiffe ce mec, vous savez pourquoi?
C'est un bon.
Non, c'est un bon.
C'est un bon.
Ouais, c'est un bon, c'est un bon.
Un bon, il donne
il
de
bosse,
la force.
Il bosse sur CNews aussi, c'est grâce à lui que vous voyez toute la question de la
tout
diversité défiler sur l'antenne. C'est lui, bravo la diversité.
Merci, merci.
Bravo. Grâce à lui, évidemment, un peu de couleur à l'antenne. Philippe Ladjibouriek.
Bon, alors je vais remettre l'église au milieu du village. Oui. On est quand même en France, messieurs. Hein.
Et après, j'irai accueillir Sarah de Québec.
Très simplement, là, on est dans la victimisation la plus totale que la France insoumise sait faire. Mathilde Panot est convoquée pourquoi? Elle est convoquée parce qu'il y a eu un communiqué de presse de la France insoumise et qu'elle est la patronne, la présidente des parlementaires de la France insoumise. Elle est convoquée dans ce cadre-là. C'est pas Mathilde Panot qui a accusé d'apologie du terrorisme. C'est le communiqué de presse des députés de la France insoumise.
Le public.
Tout à fait. C'est à ce titre-là qu'elle est convoquée. Donc faut bien remettre les choses.
Oui.
Bon, ce communiqué dit quoi? En gros, dit que le Hamas est une organisation de résistance et qu'il a résisté face à l'occupant.
Oh non.
Et ben si, en gros, je
non, ouais, c'est pas
en gros, il faut être
je simplifie, je suis un simple.
C'est bien que le Hamas est une organisation de
résistance. Il a le droit de répondre, c'est un animaliste.
Ils ont toujours dit que c'était des actions de résistance.
Attendez. Mandela était un terroriste.
Mandela était aussi taxé de terroriste. C'est vrai, merci de le rappeler. Mais laissons Philippe Ladjibouriek.
Mathilde Panot refuse de dire pour vous le Hamas n'a pas commis des actes de terrorisme.
C'est si.
Ah d'accord. Si. Non mais j'ai eu un
débat. Il y a un débat sur la question du terrorisme.
Non, t'es en France.
Et un débat autour de son acceptation dans le droit international.
Et en France.
Effectivement.
Moi j'aime bien qu'on applique le droit français quand même. Tu vois, c'est ça qui nous régit. Et donc la police la convoque sur une décision d'un proc et d'un juge. Il y a une instruction qui est ouverte. Et donc c'est pour ça qu'elle est auditionnée au commissariat. C'est pas plus qu'une police de qui que ce soit, une police politique qui essaie de faire des pressions sur les gens de la France insoumise. Maintenant, la France insoumise n'a pas arrêté de jeter de l'huile sur le feu et de cliver le pays. Clair, et ils ont notabilisé, tu te rends compte, le truc de fou, ils ont notabilisé le Rassemblement national. Et aujourd'hui, t'es cerné par les fous furieux d'extrême gauche et d'extrême droite où on nous oblige à choisir un camp. Moi, j'ai pas envie de choisir un camp. Mon camp, c'est celui de la paix, c'est celui de Guillaume. C'est que le peuple palestinien soit libre, autonome et indépendant, qui est un État palestinien reconnu. Et d'ailleurs, la France, vous avez bien vu, sur l'initiative de l'Algérie que je salue à l'ONU pour pouvoir faire rentrer en tant que État membre de l'ONU la Palestine. Les États-Unis, je le regrette profondément et je suis très en colère, ont mis leur droit de veto, ce qui a empêché ça. Et vous avez bien entendu ce qu'a dit le gouvernement. Le gouvernement dit clairement, il faudra de toute façon indéniablement
c'est bien
qu'on parle d'un État palestinien
et
qu'on
l'en mettre les pieds dans le plat. Moi, j'aime bien comment évidemment elle amène les choses. Qu'on soit d'accord ou pas, on est d'accord. Alors attendez, il y a Jouba Taleb, donc on n'a pas entendu, s'il vous plaît. Ensuite, j'irai accueillir Sarah, l'auditrice, qui est médecin. Allez-y.
Non, donc, moi, il y a beaucoup de schématisation, de gros. Il ne faut pas voir les choses en gros. Je pense que le message a été clair de la part de Mélenchon, puisqu'on adore l'incriminer. Ça a été un message de paix. Il a condamné des actes de guerre, des crimes de guerre, de l'un d'un côté comme de l'autre, depuis le début. Aujourd'hui, il a fait beau sur Paris, mais c'est un jour noir pour la démocratie. Je suis désolé de le dire. On a un retour de ce qu'on appelait la Stasi sous RDA à l'époque de la guerre froide. C'est une police politique qui s'est illustrée aussi pendant le Covid, parce qu'il faut le dire.